Reprenons alors la suite de l'exposé. Je rappelle brièvement la foi de l'Église. Nous croyons en un seul Dieu, le Dieu unique. Nous sommes donc absolument et sans aucune réserve monothéistes. Et nous croyons que ce Dieu unique est en trois personnes. Le mystère consiste précisément à ce que nous ne pouvons pas prendre les deux points de vue en même temps. Il faut donc non pas faire comme certains théologiens contemporains qui essayent de trouver des points de vue un petit peu synthétiques ou quoi, au lieu de parler de trinité, par exemple, de parler de triunité pour pouvoir dire un peu les deux choses. Il faut au contraire faire comme les classiques, et notamment saint Thomas d'Aquin, dont la théologie de la Trinité est jusqu'à présent inégalée, et de dire tranquillement, je prends le point de vue d'un seul Dieu et je m'émerveille de sa perfection, de son infinité, de sa toute-puissance, de sa bonté. Et puis ensuite, je prends le point de vue de la distinction des personnes en Dieu et je m'émerveille de la générosité du Père. J'adore l'obéissance du Fils et son accueil au point d'être un seul Dieu avec lui puisqu'il reçoit tout. Et je contemple la communion de l'Esprit-Saint comme l'amitié du Père et du Fils. Donc je fais tantôt l'un, tantôt l'autre, et je sais dans la foi que les trois personnes sont elles-mêmes le seul vrai Dieu. Un petit peu, nous dit saint Thomas, comme de la route, si vous voulez, qui va de Jérusalem à Jéricho, il y a une seule route, pourtant deux directions différentes, soit de Jérusalem à Jéricho, soit de Jéricho à Jérusalem. Eh bien, dans cet esprit, l'Église, pour essayer d'avancer dans la compréhension du mystère trinitaire, nous dit « En Dieu, tout ce qui est absolu, infini, tout ce qui relève de la divinité, de la nature divine, là se trouve l'unité. Et la distinction réelle des personnes se prend par les relations qui, étant opposées, se distinguent du même coup. » Comme on avait vu, donner s'oppose à recevoir, être le Père s'oppose à être le Fils, et ainsi de suite. C'est comme donc on distingue par les relations et on affirme l'unité par la divinité. Tout cela en Dieu coïncidant, puisque déjà à notre niveau, la nature humaine est si noble que nous prenons conscience de nous-mêmes au point d'être une personne. Je suis Guy Van Velt. Eh bien, en Dieu, la nature divine est tellement plus noble encore qu'elle est d'emblée personnelle. La divinité, ou bien Dieu, c'est la même chose, c'est moi Dieu, je suis Dieu, et le Père du Fils, le Fils du Père, l'Esprit du Père et du Fils. Alors, traditionnellement, je continue un peu dans cette ligne, et au fur et à mesure que, je dirais, nous nageons dans cet océan sans fond et sans limite, nous comprenons de mieux en mieux. Donc il y a traditionnellement deux analogies qui permettent de rendre compte que l'affirmation de l'unité en Dieu et de la distinction des trois personnes n'est pas contradictoire. Et cette analogie se prend à partir de nous-mêmes, puisque par providence nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc nous trouvons à notre niveau quelque chose qui par analogie va nous aider à percevoir comment peut s'articuler la Trinité. La première analogie est l'analogie dite psychologique. Alors le mot psychologique se prend au sens classique, non pas la psychologie depuis Freud, etc., au sens moderne, mais psychologique au sens de l'âme humaine, comment fonctionne notre esprit. Et à notre niveau, donc la vie de l'esprit, moi, donc comment est-ce que je prends conscience de moi-même? Alors sur le fond d'une sorte de conscience latente, je suis pas dans l'obscurité, je sais en gros que je suis assis là sur une chaise en train de faire de la théologie. Donc ça c'est un petit peu latent, c'est toujours l'espèce de lumière intérieure de l'esprit si vous voulez. Et ceci est la source, si je fais un acte de réflexion, de la prise de conscience, ben voilà, qui suis-je? Au fait, je suis Guy Van Velt. Donc la conscience latente se prend en compte, se dit elle-même. Et d'où vient cette perception consciente, réfléchie que j'ai? De la conscience latente qui produit, si vous voulez, ce qu'on appelle le verbe intérieur, le concept, la chose réfléchie. l'acte de réflexion. Et de cet acte de réflexion procède finalement, et là s'achève la vie de l'esprit, une sorte de satisfaction, d'adhésion à soi-même, de contentement, de se connaître, et finalement d'être, dans ce cas-là, assez content et fier de le faire. En plus, je suis en bonne compagnie, donc tout va très bien. Et là, on voit donc que dans l'unique esprit, sa vie elle-même entraîne la distinction de différents actes qui naissent l'un de l'autre. Et comme ils naissent l'un de l'autre, ça veut dire qu'ils procèdent et l'opposition des relations les distingue. La conscience permet l'acte de réflexion dans l'intelligence. D'où vient la réflexion? Elle vient de la conscience. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Le contenu est le même, c'est moi, ma nature, ma personne. Et puis de ce contentement ou satisfaction dans la volonté, d'où ça vient? De ce que j'ai réfléchi, à ce que j'étais en train de faire, et finalement j'en suis bien content. Donc ce contentement vient de la réflexion que j'ai prise sur un fond de conscience, on dirait, toujours allumé. On transpose cela en Dieu, donc on se rappelle, on ne fait pas une démonstration, on essaie juste comment articuler une unité foncière, une distinction des personnes. On va situer les personnes donc au niveau de ces actes intérieurs de l'esprit infini qu'est Dieu. Sur la conscience infiniment lumineuse de l'être absolu, l'acte d'être qui est toujours lumineux. Donc sur ce fond de conscience infinie, Dieu pose dans son intelligence infinie l'acte par lequel il se connaît lui-même, il se dit. C'est ce qu'on appelle le verbe. La connaissance que Dieu a de lui-même, non pas en tant que simple présence à soi, comme toutes les personnes, je veux dire, il est présent à lui-même, il se sait, mais là il se dit, c'est moi Dieu, voilà, réflexivement, et ce verbe intérieur, du coup, entraîne dans la volonté divine l'adhésion à sa propre excellence, la jubilation d'être Dieu. On a donc les trois actes, la conscience infinie de Dieu, ce serait le Père, qui est la source, qui se dit dans son intelligence, voilà le Verbe ou Fils, qui naît de la pensée éternelle du Père, et l'a dit, la formule, Dieu se possède. Alors que nous, nous avons une conscience plus ou moins éclairée, nous connaissons nos qualités, nous minimisons nos défauts, puis nous avons quelquefois des surprises, en Dieu, c'est la possession plénière, perpétuelle, au niveau de sa conscience. Il se dit sans aucune obscurité, ainsi il se possède parfaitement, et il jubile de connaître absolument, éternellement et de toujours, en pleine lumière, sa propre perfection. Donc Dieu sait qu'il est Dieu, il se le dit, et il en est fou de joie. Donc cette joie est l'Esprit Saint qui vient du Verbe que Dieu engendre intérieurement. Donc c'est la vie, si vous voulez, de l'Esprit infini. Donc là, on a bien l'unité de Dieu, sa vie, son être, et la distinction des actes de connaissance à partir de l'acte de présence à soi, et l'acte de complaisance dans sa propre bonté ou amour, qui vient de la connaissance formulée qu'il a de son être même. Lorsqu'on voit de façon un peu comme un processus de vie intellectuelle, intérieure, en Dieu est infini, sans borne, c'est le contenu même de la nature divine, la divinité connue, aimée par Dieu lui-même, qui est cette divinité-là. Donc j'ai bien trois actes distincts parce qu'ils naissent l'un de l'autre, et j'ai bien l'unité. L'autre analogie se prend, toujours à notre niveau, par l'amitié. Donc l'unité des personnes distinctes. Là donc au lieu de partir de l'unité infinie de Dieu, on parle de la distinction des trois personnes. Et donc comment on va retrouver l'unité? Et bien, de façon assez simple, qui est formulée par Jésus dans sa grande prière sacerdotale, « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi ». Là où tout est commun, ben tout est un, tout simplement. Avec l'avantage que c'était à toi, tu me l'as donné, je l'ai reçu et je reconnais que ça vient de toi, Père et Fils échangeant la divinité. Et en plus, chacun donne et reçoit à cause de l'amour qu'il voit dans l'autre. Donc, si vous voulez, il donne infiniment, mais en plus, il est stimulé dans le donner au fait d'être parfaitement accueilli, divinement accueilli par celui qui est son égal, parce qu'il a tout reçu de lui. Et donc, cette espèce de deuxième temps de l'amour, de l'échange ou du partage, qui est la réciprocité des deux premiers, c'est le troisième. D'où vient la réciprocité de l'amitié ? Elle vient de ce que l'un aime l'autre et réciproquement. Et plus ils s'aiment l'un l'autre, plus ils se confirment dans leur distinction, puisque toi tu donnes et moi je reçois, et plus ils sont la source de leur unité dans l'amitié réciproque. Et donc dans ce sens, l'unité en Dieu peut se prendre à plusieurs niveaux. Soit on l'apprend par la nature divine, puisque les deux ont même nature, j'avais dit numériquement une, ils sont nécessairement un, bien qu'ils soient distincts par les échanges ou relations qu'ils ont de cette nature même. Ensuite, ils sont l'un dans l'autre en tant que père et fils, parce que je te donne tout, je t'engendre. Et donc, il retrouve l'image de soi-même en son fils. Ma générosité, où est-ce qu'elle se voit ? En toi, mon fils, à qui j'ai donné toute la divinité. Donc, ils sont toujours l'un par l'autre, l'un dans l'autre, au titre de la génération. Et ils sont enfin l'un dans l'autre et l'un avec l'autre au titre de la réciprocité de l'amitié. C'est que celui qui reçoit, en fait, donne à celui qui lui donne de pouvoir donner encore plus, vu l'accueil qu'il en fait. Et là, vous voyez la redondance de l'amour qu'est le Saint-Esprit, qui, au lieu de finalement faire la fusion des deux, va, pour ainsi dire, exacerber leur distinction. Plus tu donnes, plus je reçois, et en fait, plus je reçois, plus je te donne de me donner, et donc plus tu reçois de pouvoir me donner, et ainsi de suite. Le Père et le Fils sont unis dans l'Esprit-Saint par ce surcroît de réciprocité qui vient d'où ? De leur premier échange en tant que Père du Fils et Fils du Père. Voilà. Donc, sans insister trop là-dessus, on met en tout cas nos intelligences bien en paix en se disant il n'est pas contradictoire, il est au contraire admirable et adorable d'avoir d'une part le seul vrai Dieu qui est l'Esprit infini, qui se connaît, qui s'aime, et d'avoir la révélation en plus que cela qui chez nous est simplement intellectuel et virtuel, en Dieu est infini et donc réel. Le Verbe en lui est une personne, l'amour en lui est une personne, le mot personne désignant en fait une dignité, comme on dit les VIP là, les very important persons, ben, ce qui vaut chez nous à notre niveau, mais la connaissance que nous avons est très infirme et puis elle n'emporte pas toute notre existence. Simplement une sorte de cliché qu'on prend, voilà, ça c'est moi. En Dieu, la connaissance qu'il a de lui-même emporte son être même, elle est absolument parfaite et donc elle est Dieu avec lui. Voilà. Ce qui ne fragmente pas l'unité, au contraire, ce qui la rend lumineuse et possédée dans l'intelligence par connaissance. C'est donc une unification intérieure encore plus grande que la simple conscience de soi. Et en plus, elle se termine dans la volonté par la complaisance dans son être infiniment parfait et éternel. Non pas un processus, en Dieu c'est éternel, c'est-à-dire que c'est tout entier, simultanément, dans la plénitude. Donc il n'accède pas à la connaissance, il est éternellement, pleinement lui-même, présent à lui-même, pleinement connaissant et se disant lui-même, et pleinement heureux d'être Dieu. Du coup, on comprend quand on nous dit il a envoyé son Fils, ou alors la parole révélée, l'Évangile c'est Jésus, il nous a donné, pour parler de lui, celui en qui lui-même se connaît et se dit. Et pour nous unir à lui, il nous a donné le Saint-Esprit, en qui et par qui il est avec son Fils un seul Dieu. Voilà. cette vision, si vous voulez, de la Trinité, en fait, se continue, on pourrait dire, en pointillé jusqu'à nous par la création et surtout par le salut. La générosité infinie de Dieu se manifeste en ce que le Père engendre son Fils. Un seul Dieu avec lui, dans l'Esprit Saint, parce que le Fils lui rend amour pour amour. Dans cette circulation que j'ai donnée de la divinité elle-même, de la charité infinie. Dans sa bonté, Dieu a choisi, et ça c'est l'acte de création, que le fait de tout ce qu'il donnait à son Fils éternellement, « Je suis le vrai Dieu, nous sommes la Sainte Trinité », pouvait en fait, de façon parcellaire, minime, successive, terriblement partagée et divisée, être participable à d'autres, la création. Donc le rocher représente quelque chose, la toute-puissance. L'homme créé représente l'image même de la vie trinitaire, etc. Les animaux participent de la vie, et bon, à leur niveau, selon leurs espèces, les plantes. Donc vous voyez, ce que Dieu donne à son Fils, en pointillé, pouvait, et finalement Dieu a décidé de le faire, par amour, donc dans l'Esprit Saint, participer à d'autres. Donc ça vous montre qu'en fait la création, c'est la générosité infinie du Père et du Fils et du Saint-Esprit rendue accessible à des petits qui commencent à exister par le fait qu'il leur donne un petit quelque chose, leur nature plus l'acte d'exister, au moins pour un temps. Coucou, je suis le petit chien, ben voilà, formidable, puis après disparu, on va terminer. Et tu pouvais ne pas exister, donc c'est très bien d'être un petit chien, tu pouvais être un lion, ben voilà. Donc vous sentez la création. Le péché originel a troublé cette effusion, ce jaillissement, si vous voulez, de participation possible et quasi indéfinie à la richesse infinie de Dieu. Pour réparer les péchés, Dieu a choisi, c'est ce que révèle la religion chrétienne, d'envoyer son Fils, et on le dit dans le Je crois en Dieu, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Donc voilà déjà quelque chose d'absolument énorme, en réponse à notre ingratitude, à nos péchés, transgression, obéissance, au lieu de simplement en justice châtier, ou bien tout effacer, comme il en a été tenté, entre guillemets, au moment du déluge, Dieu a décidé d'envoyer son Fils comme sauveur, c'est-à-dire de manifester les profondeurs trinitaires de l'amour créateur qui au départ n'apparaissait que comme générosité et participation possible, devient maintenant révélation du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc un surcroît absolument inconcevable pour nous d'amour, en disant « Ah ben vous me repoussez, je vais vous montrer alors qui je suis. » Donc la création, et maintenant on passe au mystère de la rédemption, donc du salut, qui comporte incarnation et rédemption proprement dit. Toujours cette générosité infinie de Dieu, du Père et du Fils Saint-Esprit, il donne à son Fils éternellement d'être un seul Dieu avec lui. Et voilà qu'à un instant, donc il y a un peu plus de 2000 ans, il a commencé à se donner à son Fils jusque dans la nature humaine, c'est-à-dire dans une âme et un corps qui relevaient de la personne de son Fils. Donc il l'aime non plus seulement selon la nature divine, mais voilà qu'il le traite en Fils, il se donne à lui dans toutes les capacités d'une intelligence, d'une volonté, d'une mémoire humaine, c'est le petit Jésus, et d'un corps tissé dans le sein de la Vierge Marie. De sorte que le Père donc aime son Fils jusque dans ce qu'on appelle sa sainte humanité, son âme et son corps. Et le Fils qui éternellement se reçoit du Père et se donne à lui dans l'adoration éternelle mobilisant toutes les puissances de la nature divine commence à se tourner ainsi vers son Père avec les capacités d'une mémoire, d'une intelligence, d'une volonté, c'est-à-dire d'une âme humaine, et avec les capacités de docilité, d'offrande, d'obéissance, éventuellement de souffrance d'un corps humain. Voilà qu'il vit sa vie filiale trinitaire avec les capacités de la nature humaine dont il s'est revêtu, il s'est fait homme dans le sein de la Vierge Marie.
Ce qui est vrai dès le premier instant de l'incarnation sera manifesté en plénitude et devant tous à l'instant où Jésus meurt sur la croix, épuisant littéralement toute son humanité en démonstration de son amour pour son Père, de la fidélité de Dieu à son alliance, coïncidant avec sa charité envers nous, puisque c'est pour nous les hommes et pour notre salut. Une plénitude telle, voilée à la croix, qui resplendira à partir du matin de Pâques par la résurrection, l'ascension, l'envoi de l'Esprit-Saint, la manifestation de l'Église, des sacrements et de toute la vie chrétienne, jusqu'à la fin des temps et à la venue glorieuse du Seigneur. Mystère de la rédemption, de la grâce, du salut et de la gloire éternelle que nous retrouverons lorsque nous présenterons le mystère de l'Eucharistie.